L'indécision fait perdre plus de temps qu'une mauvaise décision. C'est une citation de sagesse du roman Marcus Cicéron. C'est une sage décision, fidèle et ami auditeur, que vous avez pris en vous connectant sur les ondes de la fréquence de l'avenir, la 105.5 MHz. Ce générique ne trompe pas, cette voix que vous écoutez encore moins. C'est bel et bien votre émission Interligne qui prend place. Sans que l'on s'en lasse, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie et de vous savoir nombreux, scotchés à notre fréquence. Interligne, faut-il le rappeler, c'est une émission qui promeut l'entrepreneuriat jeune, qui présente le vécu quotidien des populations, les nouvelles tendances observées, bref, les nouvelles habitudes des uns et des autres. Vos rubriques habituelles sont au menu de cette autre édition d'Interligne. Il s'agit des incubateurs du Sahel, de Tape à l'œil et de Vie de ton sac. Nous allons parler dans la rubrique réservée aux incubateurs du Sahel d'une jeune start-up, Solutions Technology for Africa, mise en place par un jeune ingénieur de l'École nationale polytechnique de Maroua. Il s'agit de l'ingénieur Tchonan Ndokmo Herman. Solutions Technology for Africa est une start-up qui fait dans la fabrication de plusieurs machines, parmi lesquelles les récolteuses, les moulons, les bacs à ordures et bien d'autres. Pour plus d'éclairage au sujet de cette start-up, nous nous sommes entretenus avec le promoteur même, Tchonan Ndokmo Herman, et le chargé de la fabrication des cotons culteuses de cette start-up, Tikwa de Takwa Joachim. Nous allons parler dans Tape à l'œil des mariages interculturels et des multiples avantages qu'ils renferment. Vous suivrez des avis de quelques personnes au sujet des mariages interethniques dans cette édition. Et dans Vie de ton sac, les populations des quartiers chauds de la ville vont vider leur cœur du fait des multiples situations d'inconfort qu'ils vivent au quotidien à cause de ces nuisances sonores. Il y a pour la production de cette émission, Maxino du côté de la baie vitrée, il manipule les 1001 boutons de la console audio numérique. Steve Feuby à la réalisation, David Bayan à la supervision générale. Et dans ce studio pour la présentation, je suis l'idole Wawa. Installez-vous confortablement, chers auditeurs et auditrices. Le décollage, c'est dans un instant. Nous vous l'annoncions tout à l'heure, amis auditeurs, la rubrique « Les incubateurs du Sahel » s'intéresse à la start-up « Solutions Technology for Africa », mise en place par un jeune ingénieur, Tchonan Ndokmo Herman. « Solutions Technology for Africa » est une jeune start-up qui fait dans la production des équipements semi-automatiques en vue de résoudre les problèmes artisanaux et agricoles à travers la fabrication des machines comme les récolteuses, les fileuses, les cadeuses, les moulins, les bacs à ordures et bien d'autres. Pour plus d'éclairage au sujet de Solutions Technology for Africa, je vous propose d'écouter cet entretien mené avec son promoteur. Tchonan Ndokmo Herman, vous êtes le porteur du projet Solutions Technology for Africa. Merci de répondre aux questions de l'émission Interligne sur Radio Série.
Merci pour l'occasion de la présentation.
Dites-nous d'emblée, Pourquoi un titre de start-up en anglais alors que vous êtes dans un environnement où le fufuldé et le français sont les langues les plus parlées?
Comme vous pouvez le constater de par son nom, Solution Technology for Africa. L'objectif pour nous, c'est d'abord de couvrir l'Afrique. Et si nous avons choisi l'anglais, c'est parce que d'abord notre pays est bilingue. Et qui parle d'artisanat parle des personnes ressources. Les personnes ressources, généralement, dans chaque région où nous sommes passés, notamment au Cameroun, chaque région artisanale avec sa langue. Dans la région, dans la zone septentrionale, c'est vrai, c'est le fufuldé. Et à l'ouest du Cameroun, généralement, au niveau du Noun, c'est le français et la langue de la localité. Et dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est du pidgin généralement. Donc nous avons généralisé avec l'anglais dans le but de s'adresser à toute la communauté tisserande africaine. C'est pour ça que nous avons choisi cette langue.
Quels sont les objectifs poursuivis par Solutions Technology for Africa?
Oui, les objectifs sont de plusieurs volets. Comme objectif primordial, nous avons d'abord la couverture du secteur artisanal, notamment dans le secteur textile-confection. Et dans le secteur textile-confection, nous avons pour but de fournir des équipements manuels et semi-automatisés de nouvelle génération améliorés pour la bonne conduite et l'évolution parfaite du domaine du textile en Afrique et plus précisément au Cameroun. Comme objectif secondaire, nous attaquons au domaine agricole, notamment avec des récolteuses, des semeuses, des moulins, des presses et autres. Et aussi dans le domaine semi-industriel pour aider les jeunes start-upers comme nous et des jeunes qui veulent faire dans l'agro-industrie et n'ont pas assez de moyens pour s'acheter des équipements qui viennent de l'Europe. Nous les écoutons et nous mettons à leur disposition une solution technologique adaptée à la transformation dont ils ont besoin. Donc ça peut être dans le domaine du cacao, ça peut être dans le domaine du coton, ça peut être dans le domaine du mil, du maïs et autres. Donc en fonction des différentes cultures, des transformations dont ils ont besoin. C'est dans cet ordre que nous avons le deuxième aspect. Comme troisième aspect des solutions technologiques pour Africa, c'est de fournir des pièces de rechange, notamment dans le secteur du textile, fournir des pièces de métier à tisser, de machines à filer, de machines à coudre et de broderie. Et aussi de fournir une bonne expertise de maintenance pour ces différents équipements. Ça ne sert à rien de vous vendre les machines, de vous vendre les pièces de rechange et de ne pas fournir une solution adéquate pour à chaque fois s'il y a les cas de maintenance. Notre objectif, c'est de s'occuper uniquement des aspects de nouvelle génération pour empêcher nos différents start-upers, nos différents jeunes d'aller faire recours à l'étranger pour s'acquérir des nouvelles machines alors qu'on peut réparer celles qu'ils ont déjà. Comme dernier volet, il y a l'aspect formation. Nous allons organiser des formations dans les différents domaines, que ce soit aider les jeunes dans le domaine de la chaudonnerie, aider les jeunes dans le domaine du tissage, du textile, de la confection et aussi venir en aide, pourquoi pas, en termes de consultation à les différents aspects de nos différents domaines pour un avenir meilleur pour soit une organisation ou bien particulier.
Quand est-ce qu'est née votre start-up et quels sont les mobiles qui ont guidé sa création?
Donc j'ai déjà Chonan Dogmo Eman, que je suis ingénieur en génie textile et cuir. Donc c'est d'abord une passion pour moi, le domaine technologique, d'abord une passion au domaine technologique. Et en plus, j'ai focalisé mes études dans le domaine du textile et du cuir, où j'ai eu l'opportunité de faire partie des étudiants de la prestigieuse école qui est l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua, où j'ai eu une très bonne formation avec des enseignants de qualité. C'est dans cette optique que j'ai décidé de pouvoir mettre sur pied une entreprise qui fait dans le domaine du textile, qui appuie le secteur artisanal comme le secteur industriel, parce que notre domaine est très concentré dans le domaine industriel, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et aussi, nos promotionnaires, que ce soit nos grands frères académiques comme nos petits frères académiques, ont toujours cette tendance-là à aller travailler dans des entreprises finir leur formation et aller être employés. Mais pourquoi pas créer notre propre structure, nous développer nous-mêmes et créer des équipements qui vont permettre à ce que chacun puisse s'installer et créer sa mini-entreprise et s'en sortir de ses propres moyens. C'est dans cette optique que j'ai eu à penser et regrouper une équipe pour pouvoir mettre cette start-up sur pied. La start-up, en passant, est en cours. En cours de création, elle n'est pas encore totalement opérationnelle.
D'accord. Quelles sont vos réalisations à ce jour?
À ce jour, les réalisations qui sont palpables, il y a les métiers à tisser de 3-4 générations autant pour moi. Première génération, il y a le métier à tisser chemise automatique qui est disponible au village artisanal. Il y a le métier à tisser à pédale. Il y a un métier à tisser vertical. Et il y a de premier ordre et deuxième ordre un métier à tisser vertical. Donc, c'est deux types. On a 4 types de métiers à tisser déjà réalisés. On a les métiers à filer. 3 types de métiers à filer déjà réalisés. On a des moulins déjà réalisés. On a des presses déjà réalisées. Et on a aussi des décortiqueuses d'arachides, de mille, des batteuses de mille qui ont déjà été réalisées. Donc, on a l'expertise adéquate. On a l'expertise adéquate, on a toute la volonté nécessaire. Ce qui nous manque maintenant, c'est un appui assez conséquent pour mettre les produits sur le marché à moindre coût. C'est dans ça.
Et qui sont vos clients? Et qui sont vos bénéficiaires?
Oui, comme nos clients, potentiels clients, nous avons les artisans, principalement les artisans dans le domaine de la filature, dans le domaine du tissage. Nous avons les organisations, nous avons des ONG qui passent des commandes de métiers à tisser, pour les métiers à tisser, des métiers à filer pour le dispatching des artisans au niveau de l'artisanat. Nous avons aussi des ménages qui passent des commandes des machines généralement appelées moulins à eau, moulins à sec pour le maïs, le mil et les vivres frais. Nous avons aussi des GIC ou des COPS qui passent des commandes pour des presses pour différents milieux, un peu comme la presse à huile de Nîmes pour pouvoir essayer d'avoir une bonne huile de Nîmes et vendre en quantité. C'est un peu dans ça que nous exerçons. Et nous comptons industrialiser notre système de production parce que pour l'instant, nous sommes un peu trop archaïques. Donc, industrialiser et nous centrer parce que nous sommes un peu éparpillés dans la ville de Maroua. Nous avons des ateliers ça et là, au Comis, dans les ateliers de transformation et les ateliers de fabrication mécanique, ce qui nous empêche vraiment d'avoir une grande rentabilité. Parce que nous sommes très dispersés. C'est pour ça que nous voulons nous regrouper et essayer de produire quelque chose en masse, à moins de coûts, pour une bonne qualité.
Comme toute entreprise qui se met en place, quels sont les moments de balbutiement et d'hésitation que vous avez rencontrés et comment êtes-vous arrivé à les surmonter?
Les moments d'hésitation, c'est tous les jours. C'est tous les jours, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir parce que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Par exemple, si aujourd'hui nous sommes devant vous, aujourd'hui c'est parce que nous nous sommes fait connaître par l'École nationale supérieure polytechnique et par la BMZ, du biais de la GIZ, qui nous ont encouragés en nous donnant les moyens de titiller ce milieu en produisant des équipements que vous avez vus lors de la présentation des ateliers de restitution. Et nous espérons que pour nous donner un souffle nouveau, nous puissions avoir des investisseurs qui puissent aussi nous appuyer dans ce sens-là. Sinon, ce n'est pas facile. Vraiment, ce n'est pas facile parce que vous-même, vous connaissez le domaine entrepreneurial au Cameroun. Ce n'est pas évident. Il y a des rêves, il y a de l'expertise. Maintenant, il faut les moyens. Il faut les moyens. On ne demande pas beaucoup, en fait. Juste et nous écouter un peu. Dans le domaine peut-être publicitaire, c'est déjà un grand apport. Et dans le domaine peut-être comme des ONG qui nous passent des commandes en grande quantité, un peu comme ça, donc si on peut nous passer des commandes, si on peut nous appuyer dans le domaine médiatique, si on peut nous appuyer en appui de matériel, déjà c'est déjà une bonne chose.
Dites-nous, quelles sont les perspectives de votre start-up à moyen et à long terme?
Oui, à moyen terme déjà, comme j'ai dit au début de mes propos, c'est de couvrir le marché artisanal camerounais. L'avantage que nous avons présentement, c'est que nous n'avons presque pas de concurrents. Donc, couvrir en termes d'équipement l'artisanat camerounais, profiter de ça pour pouvoir maintenant dispatcher notre expertise sur le plan africain. Donc notre objectif à court terme, c'est de couvrir la sous-région, à la longue, être leader sur le marché africain dans le domaine principalement du secteur textile, coton textile, confection et équipement de seconde génération amélioré.
Quel serait votre message à adresser à la jeunesse qui, il faut le dire, hésite encore à se mettre à son propre compte?
Je tiens d'abord à dire à la jeunesse que ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile, mais pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord commencer à se dire une chose. Si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux devenir riche, il ne faut pas chercher à être dans la fonction publique. D'abord, parce que si tu as d'abord un pied dedans, un pied dehors, donc je vais d'abord entrer dans la fonction publique avant de voir comment monter mon entreprise. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça et on n'a pas encore réussi, mais on a quand même un pan vers ce qu'on veut. Donc, essayez de vous rapprocher des organisations, essayez de vous rapprocher, essayez d'avoir une bonne formation et vous entourer des personnes qualifiées. Mettez un projet sur pied, croyez en votre projet et donnez-vous les moyens de réaliser ce projet. Tout est possible. Et le Cameroun compte sur nous.
Et maintenant, s'il y a un banquier ou un philanthrope ou toute personne généreuse et désintéressée qui nous écoute et qui voudrait soutenir votre beau projet de start-up Solutions Technology for Africa, quel message voudriez-vous lui adresser pour susciter son envie de financer?
Notamment d'abord, les banquiers, les bailleurs de fonds, je les appelle à venir. Avant toute chose, ça ne sert à rien de trop bavarder ou bien de trop argumenter certaines choses. Eux-mêmes peuvent nous approcher. Ils peuvent nous approcher et voir de quoi nous sommes capables. Nous allons alors, dans ce cas, venir présenter notre cahier de charge, notre plan d'action. Et je vous assure, c'est un projet assez juteux parce que le marché n'est même pas exploité. C'est un marché que nous allons commencer et nous allons prospérer en tant que première entreprise au pays et dans la sous-région, avec un marché ayant une très forte demande. Nous pensons déjà rentabiliser et en peu de temps notre investissement et pouvoir rendre fier toute personne qui sollicitera être notre partenaire.
À quelle adresse les auditeurs pourraient vous joindre? Vous avez un numéro de téléphone, un WhatsApp sur lequel on peut vous joindre? Ou est-ce qu'on peut vous rencontrer pour approfondir la connaissance sur votre start-up?
Bien évidemment, c'est tout ce qu'on souhaite. Que ce soit pour visiter l'atelier, que ce soit pour qu'on puisse échanger au niveau du projet. Mon téléphone est ouvert au numéro 690-90-44-71 et au 620-54-63-57. 690-90-44-71 et le 620-54-63-57 et par mail à solution.t.a@yahoo.com. solution.t.a@yahoo.com.
Jonan Ndokmo Herman, porteur du projet Solutions Technology for Africa, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Oh, merci beaucoup et merci pour l'opportunité de passer sur votre prestigieuse antenne. Je souhaite que vous me rappellerez les jours à venir pour me dire « Ok, on a eu quelqu'un qui est intéressé ». Merci.
Mettre en place un tel procédé nécessite, amis auditeurs, un grand savoir-faire, une grande volonté, une énorme passion, le tout couronné par une grande capacité de résilience. Tomber et se relever font partie de la force de l'équipe de cette start-up. Des jeunes comme Chonang Dogmo Herman, ils sont nombreux et souhaitent avoir un peu d'accompagnement afin de faire mûrir et fleurir leurs différentes idées. Toujours dans le cadre de Solutions Technology for Africa, nous sommes allés à la rencontre d'un autre jeune. Lui, c'est Tikwa de Takwa Joachim. Il est le responsable de la fabrication des machines destinées à la récolte du coton de cette start-up. Il va lui nous parler de cette machine dont il est parvenu à mettre sur pied. Tikwa de Takwa Joachim, vous êtes start-upper, ingénieur en énergie renouvelable à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. Merci de répondre à nos questions.
Bon, merci de me passer la parole.
Vous êtes aux commandes des équipements de récolte. Avec vous, nous allons justement parler de ces équipements-là. Que pouvez-vous nous dire de vos travaux?
Déjà, comme vous l'avez si bien dit, je me nomme Tikwa de Takwa Joachim. Je suis étudiant à l'École nationale supérieure polytechnique de Maroua. Dans le cadre d'un projet qu'on a défini, moi et mon collègue, nous travaillons en accord avec notre école pour pouvoir développer plusieurs équipements, parmi lesquels des équipements que moi-même je travaille dessus avec une équipe, des équipements qui doivent aider dans la récolte du coton. Tout dernièrement, les travaux sur lesquels nous sommes concentrés sont une récolteuse de coton. Et dans ce cadre, nous avons travaillé depuis plusieurs mois pour pouvoir développer cette machine déjà localement, avec des compétences techniques à notre disposition et dans un cadre qui nous permettra, je pense, dans un avenir proche, de fournir ces machines à des cotonculteurs qui sont présentes dans la zone. Nous avons axé sur ces travaux principalement une machine déjà à moindre coût pour que les agriculteurs puissent s'en acquérir. Une machine qui doit être fabriquée localement. Déjà, pour les procédures utilisées pendant la fabrication, c'est nous-mêmes qui travaillons dessus. Et les matériaux que nous utilisons sont des matériaux, pour la plupart, achetés dans le pays. Il est clair que pour développer le secteur industriel, nous avons besoin d'équipements de pointe. Dans le cadre de nos travaux, nous espérons vraiment améliorer, serait-ce que d'un pas, ces recherches-là.
Et d'où proviennent vos matériels de travail?
Les éléments que nous utilisons pour effectuer nos travaux, comme je l'avais un peu dit dans la discussion au début, proviennent pour une grande partie de Maroua, principalement, parce que j'ai dit le pays. Mm-hmm. Mais à Maroua, pour les choses comme les ossatures métalliques, nous trouvons des aciers, certes oxydables, mais dans la ville. Et pour des choses particulières qui ne sont pas là, nous partons souvent au Nigeria où nous commandons du matériel venant de la Chine.
Et qui finance vos projets?
Ceux qui financent nos travaux sont la GIZ. Bien sûr, avec l'aide de notre école, nous avons pu obtenir ce financement qui nous permet d'avancer dans le cadre de notre start-up.
D'accord. Ça va, tout se passe bien ou alors vous faites face à une, deux difficultés?
Depuis toujours, déjà que c'est des travaux qui nécessitent le courant, la ville fait souvent face à des coupures de courant, ce qui perturbe beaucoup les travaux. Il y a aussi l'accessibilité aux matériels qui sont hors du pays. Ça prend souvent du temps avant d'arriver. Pour certaines expertises qu'il nous faut, à un certain niveau de travail, il nous manque aussi cela.
Tikwa, vous êtes, je le rappelle, un ingénieur en énergie renouvelable. Et la question que je me pose est celle de savoir comment fait un ingénieur en énergie renouvelable pour fabriquer une récolteuse de coton.
Déjà, avec la question que vous venez de poser, vous m'amenez à parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur. Pour la plupart des gens, souvent, j'ai l'impression qu'ils voient la vie comme une notice qu'il faut lire et puis suivre. Faire dans l'entrepreneuriat, ça demande d'oser. Et déjà, c'est bien quand même de savoir ce dont on est capable avant d'oser. Pour ma part, je suis certes un ingénieur en énergie renouvelable, mais je me retrouve du côté de ces équipements et dans ce projet, parce que déjà, j'avais des compétences dans la réalisation des machines, plusieurs machines en réalité, déjà dans mon domaine, comme des fours industriels, pour la pyrolyse, par exemple, des presses pour divers usages, dans, par exemple l'agroalimentaire. Et mes compétences dans ces domaines m'ont permis de pouvoir mettre sur pied ce projet et d'avancer droit vers ce risque qui est l'entrepreneuriat, tout en travaillant chaque jour dans l'espoir d'arriver à des résultats et de pouvoir alléger vraiment la tâche de ces agriculteurs en réalisant ces machines, parmi lesquelles cette récolteuse de coton.
Vous avez eu à subir une formation dans ce domaine ou alors c'est naturel, un don de Dieu?
Déjà, ceux qui pourront mieux répondre à ces questions, ceux qui me connaissent. J'ai fait le collège Jacques de Bernan. J'ai grandi dans la fabrication de beaucoup de choses. J'ai même un peu, comment on dirait, bricolé depuis ma naissance. Ça m'a amené à réaliser des choses que moi-même, aujourd'hui, je n'en pensais pas capable il y a quelques années. Il y a avec l'aide des amis, des rencontres, de la famille, des chefs d'atelier, je me suis retrouvé à de plus en plus développer ces compétences que j'avais dans la conception en réalité des appareils. Plus en électromécanique. Parce qu'en réalité, pour augmenter souvent mes compétences, il m'arrivait d'aller me faire former dans des ateliers pendant des mois, voire même souvent des années.
Concernant votre projet de fabrication d'une récolteuse de coton, s'il faille à ce qu'on veuille vous venir en aide, quelles seraient vos doléances?
Avec les quelques difficultés que j'ai rencontrées au début des travaux, le début du projet en réalité, je me retrouve à avoir comme doléance déjà... un besoin en financement déjà pour pouvoir effectuer ces recherches. Et également, j'ai besoin d'une accessibilité à l'information par rapport au domaine sur lequel je me suis attaqué. Parce que déjà, quand on travaille sur ce genre de projet, on a l'impression d'être seul. Alors qu'il est possible qu'il y ait des gens qui ont travaillé sur ces choses, ou même qui ont une expertise, ou même des idées allant dans ce sens. Dans mon domaine, il est souvent très intéressant de mettre en avant le travail en équipe, parce que l'union fait la force. Donc, j'ai cette doléance-là de me retrouver dans ce milieu-là.
Pour finir, vous avez certainement un message à adresser à la jeunesse qui nous écoute.
Bon, pour la jeunesse, mes amis, mes grands frères, même mes petits frères qui sont en train de grandir, en réalité, je vais dire une chose, c'est que demain n'existe pas quand vous êtes pendant le moment présent et ce qui s'est passé hier n'existe plus. Donc, il n'y a que le moment présent où vous pouvez agir. C'est souvent difficile quand on se retrouve dans des milieux où ce n'est pas facile d'avoir une vision ou de voir le bout du tunnel. On ne construit pas en une journée une maison. C'est des petites choses qui font qu'on grandit. Donc, pour aller dans le sens d'atteindre vos différents objectifs ou même les buts que vous vous êtes fixés dans la vie, prenez les décisions et agissez par divers moyens en allant regarder, causer avec peut-être vos grands frères qui sont dans le même domaine où vous voulez faire. Ou même en prenant des risques, parce qu'il n'y a rien de mieux que de prendre des risques pour avoir un résultat différent de tout le monde. Du moment où le pays même devient de plus en plus compliqué avec l'emploi, le meilleur risque que vous pouvez prendre, et surtout quand vous êtes encore jeune, c'est de chercher à créer votre propre, à être autonome en réalité, financièrement. Commencez petit, avancez petit à petit, en apprenant chaque jour de nouvelles choses. Et je vous rassure que ça peut mener loin.
Tikwa de Takwa Joachim, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci, madame.
L'École nationale polytechnique de Maroua, il faut le dire, forme des génies. Ce que ces jeunes parviennent à mettre sur pied est tout simplement extraordinaire, voire incroyable. Ils ont juste besoin d'un peu d'accompagnement. Si cela est fait, à voir les travaux de ces jeunes, tout porte à croire qu'ils sont en mesure de donner bien au-delà. Tikwa de Takwa Joachim, un autre bel exemple à suivre. Bien, nous allons tout simplement dire bon vent à Chonan Ndokmo Herman, porteur du projet Solutions Technology for Africa, et à tout son staff. Le mariage interethnique est une forme d'exogamie qui implique une union entre conjoints appartenant à des groupes ethniques ou à des races différentes. Si auparavant ce type d'union n'était pas bien accueilli, voire rejeté dans plusieurs ethnies et familles, aujourd'hui il ne se fait vraiment pas rare. Les uns et autres ont tout simplement compris les multiples avantages qui peuvent en découler. Le mariage interculturel est un moyen par excellence de promotion de la cohésion sociale, de la solidarité, de la paix entre les peuples et du vivre ensemble et bien d'autres. Que ce soit à l'est ou à l'ouest ou encore au sud, au nord, l'on peut paisiblement aller chercher son conjoint. Bien qu'il existe encore cette catégorie de personnes qui se préfèrent avec des conjoints de leur ethnie. Au sujet des mariages interethniques, je vous propose d'écouter quelques avis recueillis.
Pour moi, je dirais que le mariage interculturel est mieux. Mais me concernant, dans l'avenir, je me projette marier une de mes de mon ethnie parce qu'on pourrait se comprendre et beaucoup plus culturellement et familialement. Merci.
Je pense que les mariages interculturels ou bien interethniques est une bonne chose dans la mesure où nous sommes dans un pays où il y a plusieurs cultures. Cela nous permettra aussi de rendre effectif le brassage culturel que prend notre pays, d'une part. Et d'autre part, je pense que cela dépendra de toute famille et de toute ethnie. Et ces obstacles viendront du fait peut-être de leurs coutumes, de leurs us, qui peut-être sera un frein. Mais pour ma part, personnellement, c'est une bonne chose pour le brassage culturel.
Pour les mariages interethniques, moi je pense qu'il n'y a aucun problème à cela. Le fait d'aller épouser un homme qui n'est pas du même ethnie que toi, je ne pense pas que c'est un problème parce que on dit souvent que l'amour n'a pas de frontières. L'essentiel c'est d'aimer la personne. Alors si j'aime quelqu'un, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne devrais pas l'épouser. Parce que je suis peul, parce que lui il est guisga, parce que je suis moufou, lui il est kotoko. Non! Tout ça, on n'a pas besoin de cela. D'ailleurs, même les langues, les autres disent que quand vous êtes dans la même ethnie, vous causez votre langue maternelle sans problème et autres.
Pour moi, le mariage interethnique, c'est une bonne chose, mais je préfère mieux le mariage d'une personne qui essaie d'aller même découvrir une autre ethnie. Donc, de se marier avec une autre personne d'autre ethnie, et ça favorise beaucoup plus sur le plan de la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Donc, mais le fait de rester à se marier avec une personne de son ethnie, c'est pas mauvais, mais le fait d'aller encore se marier encore avec une personne d'autre ethnie, ça joue quand même beaucoup plus sur le plan de la cohésion sociale.
Le mariage interculturel, on ne le dira jamais assez, renferme de nombreux avantages, raison pour laquelle ce type d'union est de plus en plus conseillé. L'on comprend là mieux l'expression « l'amour n'a pas de couleur, ni d'âge, ni de frontières ». Il nous permet de connaître une culture différente de la nôtre, une autre façon de penser et de vivre. Cela favorise le rapprochement des peuples et participe au dialogue des communautés. Les populations des quartiers chauds de la ville de Maroua en souffrance. Ces quartiers où le jour et la nuit sont presque confondus de par les tapages, les vacarmes et les boucans. Les populations de ces quartiers sont partagées. Les débits de boissons et autres discothèques font monter l'ambiance chaque soir en distillant des musiques dont l'écho retentit au-delà de l'enceinte des murs. toute chose qui met mal à l'aise les riverains. Cette pollution sonore est une plaie pour les voisins qui voient leur sommeil troublé. Bien au-delà du sommeil perturbé, les élèves et étudiants de ces quartiers ne sont pas également en reste. Nous avons baladé notre micro dans quelques quartiers chauds de la ville, écoutant les populations excédées qui vident leur cœur quant à ces nuisances sonores dans la rubrique « Vie de ton sac ».
Moi, je trouve que ici, c'est un endroit qui est difficile à habiter. Et d'autant plus que nous voyons qu'il y a des bars à côté. Et en tant qu'étudiant, je trouvais le moment sont difficiles pour moi de m'adapter à cet endroit-là. Il y a autant de bruit. Et du coup, ça ne m'encourage pas, ça ne me favorise pas à assimiler bien mes cours. Donc, je suis obligé d'aller dans un endroit où il y a la paisibilité pour essayer de trouver un peu la calmie, pour essayer de bien assimiler mes leçons.
Même nous, souvent, ça nous dérange, mais on n'a pas le choix parce que c'est devenu déjà un milieu quotidien. Là où nous vivons tous les jours, ça devient déjà une seconde nature. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Au contraire, quand nous quittons même ce milieu pour aller peut-être dans des zones périphériques ou bien des zones enclavées, vous voyez, non? Nous nous sentons mal à l'aise parce qu'il n'y a pas de bruit là-bas. Donc, en quelque sorte, c'est ce que nous avons comme idée à vous partager.
Au quartier Pont-Vert, nous avons tellement de problèmes avec le bruit sonore. C'est devenu même une source d'insécurité. Puisqu'il y a même des cas qui se passent à côté, tels que les agressions, les cas de maladies et autres. Il y a même des hypertendus qui sont de plus en plus malades. Et on ne sait pas comment pallier à ces mal. C'est un mal qui risque de perturber puisqu'il n'y a aucune répression. Et on ne sait pas ce que les autorités peuvent faire pour que le quartier soit même en sécurité. Ça commence de 20h jusqu'à 6h du matin. Les cris, les musiques, tout ça. Les enfants ont trop de difficultés ici. Bon, ils n'arrivent pas à être stables pour réviser leurs cours. Avec ces bruits, certains même sont obligés de fermer leur cahier et aller danser un peu à côté.
Moi, je suis habitué parce que je suis né dedans. Malgré tous les effets sonores, ça ne m'empêche pas de lire, ça ne m'empêche pas d'écouter et de me concentrer sur mes études. On sait bien aussi qu'il y a certaines heures qu'il faut cibler, des heures un peu peut-être tardives dans la nuit qui sont favorables à la lecture. Bon, dans la globalité, je suis habitué parce que je suis né dedans et j'ai grandi dedans. C'est devenu comme ma nature, donc ça ne m'empêche pas du tout à me concentrer si j'ai un objectif à atteindre.
Je
ne
dérange pas parce que je suis habitué. Je me réveille par exemple le matin pour étudier. Très tôt le matin, il n'y a pas trop de bruit. Moi-même, s'il n'y a pas la télé, je ne peux même pas lire. Je lis toujours devant la télé. Donc, nous sommes bien habitués au bruit là.
Concernant les bruits, je pense que ça nous affecte franchement parce qu'on ne trouve pas un bon sommeil et nous n'avons pas un cadre idéal pour pouvoir nous épanouir dans nos études et également nous n'avons pas de temps de repos, surtout sur le volet sanitaire. Normalement, tous ceux qui ont un problème de santé ont besoin du calme à l'abri du bruit, mais ce n'est pas chose faisable dans notre secteur, surtout vers les côtés là où il y a beaucoup de bars. Et ces bruits nous empêchent franchement de nous reposer comme il se doit. Mais néanmoins, on fait avec. Et si vraiment s'il y a des initiatives à entreprendre ou bien des heures, il faut pour limiter les bruits ou bien les heures pour arrêter la sonorisation, cela nous aiderait beaucoup.
Pont vert kam mingala fitina jamum kam man kam fitina man kam dum hala barji man harkaji mabbe do to harka mabbe non do sani derange pa billatano himbe bo amma yi to be jeyi be jari yake fere ha der fattude windo dani be ngara be do kaba habgo man der fattude do be pindina baba chalaje yende do ni haddoro be ngurtini da gorko do haddo debbo fere do haba be gorko ngam be jari o wi debbo man se badi tamo be dilli da noy na lari tu sala dum na hunde je boddum normalement to himbe don no ngada hunde mabbe to yende wala kana yi wala billa ngam wala ha fitinaji banni ka wala me yahu go yaraman wara do billa himbe der fattude be ngara be do kaba be do karka ko je holo je musique djima be do billayma me to be jari be ngari be ndara be nerna harka be jaa be gujjagal ton noy goddo to yari seddani hakkilo mum dilli nasta warugo fitinaaji wara der fattude ha on non jeedi on don de itidi go bo wara fayin do billana mon ayi do man do dum fitina sedda wala bo mo jabata billego kam sakko ma andi yo a nyalla huugo jemma do problema fu a wala siutina yonki ma an bo to wakkati man go bo a fotai fahinta bo a dana yowa harka man do gal toy bum 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 jotta do on nana be ngadi do jotta laari yo to dernere man do ma be do supta babal jibanni man ha babal moptata himbe banilo nga ha be ngadana himbe fitina ko fitina man je be ngadi no ha pon verman do je be ngadi maro man do paddo na je pon veramin do buri satugo ngam himbe do duuda mastinta e wala bono wonerta ha babal himbe ngoni ka harka ka wonata kam kanju kana wadata ko don do man do yake be ngaddi no visil ji be bi himbe ta duuda ta mofta do dum wallino himbe no sedda kam ndikkano banni man moftugo man do wadda to nyande ko goddo yidi war gon kalludum ma to tayon don jodi jurdo be ngada do dum meman himbe jur amma to himbe duuda do na laari ko goddo wadi fitina jutta ko halumo je be ngari do na yi torra himbe ba je be ngari je pon verdo na buri tul torrugo himbe donc dum do man on fitina man kam c'est ça alors qui nous dérange un peu.
Après avoir fait même 3 mois ou bien 3 jours, on s'adapte à tout moment.
On dit très souvent qu'à force de forger, l'on devient forgeron. À force d'être quotidiennement dans ces milieux pleins de bruit, les populations s'y adaptent à petit feu. Sauf que pour d'autres, c'est une tâche vraiment compliquée. Les plaintes ont beau se multiplier dans certains quartiers, mais jusque-là, rien n'y est fait. À l'image du Pont Vert et de Palard, d'autres quartiers comme Domayo, quartier tout pourri ou encore Ardé, vibrent quotidiennement au rythme de ces nuisances sonores. Celui qui se perd dans sa passion a moins perdu que celui qui perd sa passion. C'est cette pensée d'Alexandre Jardin qui vient faire retentir les cloches de fin de votre émission Interligne de ce jour. Nous parlions dans la rubrique « Les incubateurs du Sahel » de la start-up Solutions Technologies for Africa, une start-up qui fait dans la fabrication des équipements tels que les cotonculteurs, les fileuses, les bacs à ordures et bien d'autres. Son promoteur, Chonang Dokmo Herman, était dans le fauteuil de l'invité. Tape à l'œil s'est penché sur le sujet des mariages interethniques et de ses multiples atouts. Et dans Vie de ton sac, nous avons parlé du quotidien des populations vivant dans les quartiers chauds de la ville de Maroua. Les populations à qui nous avons tendu le micro ont vidé leur cœur quant à tout le tort et le mal que leur causent ces nuisances sonores. Il y avait pour la production de cette émission Maxino à la mise en onde, Steve Feuby à la réalisation, David Bayan à la coordination générale. À la présentation, je suis l'idole Wawa. Prochain rendez-vous pour une autre livraison d'Interligne, c'est la semaine prochaine, ne manquez surtout pas. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.